Bonjour, je m'appelle Amy Gail Gagné et je suis votre chamane. Aujourd'hui, on va aborder, enfin, un thème auquel je pense depuis bien avant de débuter le podcast. Donc, ça doit faire au moins un an et demi que j'ai hâte de faire un épisode sur ce sujet-là, en fait, qui est l'enthousiasme. Je sentais que le moment était très propice à vous parler d'enthousiasme parce que moi-même, dans la dernière semaine, j'ai accepté, disons, d'épouser, de vivre pleinement avec mon enthousiasme. Et bon, ça peut être drôle comme ça à entendre, puis bon, c'est pas tout le monde qui me connaît, hein, qui écoute le podcast. Il y en a peut-être qui m'ont cerné un petit peu, mais je dois dire que je suis quelqu'un qui, au premier abord, est identifié comme une personne très énergique et très enthousiaste et lumineuse et positive, disons. C'est ce que même des gens que je connais peu me disent, et des gens que je connais bien et beaucoup aussi. Par contre, je dois dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours eu cette dualité de peur de paraître naïve, peu profonde, utopiste ou irréaliste, dans le fond. Par mon enthousiasme alors, que pourtant, je comprends depuis justement au moins 2 bonnes années que l'enthousiasme est un facteur complètement indissociable du succès et de l'action, en fait. L'enthousiasme est un carburant pour l'action ou un moteur de l'action. Il y a beaucoup à dire sur l'enthousiasme et je me suis quand même bien préparée. J'ai fait quelques recherches, je vous ai sorti des citations. Alors, on va y aller comme ça. Vous savez, l'enthousiasme est la clé du soi. La vérité, c'est que plusieurs d'entre nous ont appris à calmer, à freiner, à raisonner un peu trop leur enthousiasme, à l'étouffer même. Puis tristement, pour plusieurs, c'est pas question ici de théorie du complot, mais plutôt de résistance. Nos parents, notre famille, notre communauté en général, on a appris à résister la plupart du temps à notre enthousiasme. Donc, si tout le monde le fait autour de nous, bien, on se dit qu'on a tort d'alimenter cette énergie-là qui est très, très vive, on s'entend. L'enthousiasme est souvent associé au fanatisme même. Et à un point où on a trouvé ça dangereux d'être enthousiaste, et on trouve ça dangereux quand on voit quelqu'un qui est très débordant d'enthousiasme. C'est comme une énergie qui est sur le point d'éclater. On dit que les personnes sont enfantines, naïves, ridiculement positives, sans fondement, irrationnelles. La vérité, en fait, c'est que être très posé, très rationnel et choisir consciemment, après mûre réflexion, de laisser l'enthousiasme nous guider, c'est la plus belle chose au monde. C'est comme ça qu'on arrive à avoir peut-être un argumentaire qui justifie notre enthousiasme, pas parce qu'il faut se justifier, mais ne serait-ce que se justifier pour être en paix avec soi-même, de savoir qu'on fait la bonne chose et qu'on a raison d'être heureux et d'être plein de vie et d'être comme un enfant devant la vie jusqu'à notre mort. Et contrairement à la croyance très répandue, l'enthousiasme n'est pas un feu de paille. L'enthousiasme, c'est le feu sacré. C'est pas un feu qui s'éteint tout seul au bout de quelques jours, de quelques minutes, de quelques semaines. Le réel enthousiasme, c'est l'indication de votre feu sacré, de ce que vous souhaitez, et non seulement de ce que vous souhaitez réellement faire, mais de ce que vous devez faire. C'est notre âme qui nous parle, notre intuition, notre potentiel. Donc, en fait, à travers toute l'histoire, depuis le départ, le mot enthousiasme a une connotation très péjorative tout de même, mais à la base, l'étymologie du mot enthousiasme signifie le Dieu en soi. Enthousiasme vient du mot grec enthousiasmos, dans lequel on retrouve la racine théo, qui signifie Dieu, et en, qui signifie à l'intérieur. Donc, l'enthousiasme veut dire Dieu à l'intérieur de soi. Et quand j'ai lu ça il y a 2 ans, justement, ça m'a allumé énormément. Je me disais, effectivement, quand on sent cette énergie-là monter, on se sent aussi en harmonie, on se sent à la bonne place, connecté exactement où on doit être dans le moment présent, dans nos bottines, comme on dit. On n'a pas besoin d'y penser bien, bien longtemps pour penser que l'enthousiasme, c'est Dieu qui s'anime en nous, c'est Dieu qui parle, Dieu ou l'univers ou notre âme ou peu importe comment vous allez l'appeler, mais on comprend le concept. En des mots plus accessibles, c'est ça, c'est notre essence. C'est le Dieu en nous, puisque nous avons tous Dieu en nous. Nous sommes tous Dieu. On dit que nous avons tous la conscience de Dieu en nous, puisque comme tant de leaders spirituels nous le disent, nous sommes Dieu parce que nous sommes tous une seule et même énergie. Être enthousiaste, c'est être inspiré ou plus précisément possédé par Dieu. Cette impression d'être au bon endroit au bon moment, de poser le bon geste, de résonner si pleinement et en harmonie avec soi, avec son soi intérieur, avec sa vérité, sa source, comme on dit. Quand je pense à ce podcast, par exemple, je sens cette profondeur, cette profonde chaleur intérieure. Quand je pense au documentaire que je souhaite faire en collaboration avec ma mentor qui m'inspire, je me sens en feu. Quand on a un projet, quand on a un rêve, on sent le feu et on a appris à l'éteindre par peur, par jugement, par manque de confiance, par croyance, par des fausses croyances qu'on a acceptées mais qui ne sont pas la réalité. Puis ce feu sacré-là, c'est l'enthousiasme. Ça porte à poser une action réelle et simple qui va couler. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça, honnêtement? Tout comme courage signifie agir avec le cœur, il y a tellement de beaux mots qu'on peut utiliser comme ça. Et par extension, en fait, inspiration divine, on disait que les poètes recevaient une inspiration divine qui se manifestait dans leurs discours par une foule de grandes images puissantes et magiques. On appelait ça l'enthousiasme poétique, l'enthousiasme des poètes. On dit que c'est le mouvement passionné qui transporte le poète, l'artiste. Quand l'artiste compose, le seul sujet qui l'intéresse, en fait, c'est son art, sa création, et le monde extérieur disparaît. Que l'enthousiasme transporte les poètes ou les artistes dans un autre monde. Mais l'enthousiasme nous transporte aussi, peu importe quelle est notre passion, quand on a une soif incroyable et une joie incroyable à pratiquer cette passion-là, on oublie le temps. On voyage dans un autre monde qui est pure joie et pure réalisation de soi et bonheur. Donc on dit, en fait, je parlais du danger du fanatisme religieux. C'est une forme d'enthousiasme qui est pas grounded, qui est pas attachée au sol. Donc on peut pas planer sans avoir les pieds sur terre, c'est pas quelque chose qui va être constructif et c'est quelque chose qui peut être dangereux. On peut pas rêver sans observer autour. Mais au final, l'enthousiasme est un carburant unique et sans pareil. Il est indissociable de la foi. Et surtout, il faut apprendre à se réjouir de l'élan, de toute l'énergie qui vient avec l'enthousiasme. Parce que à partir du moment où on a la foi, on accepte que l'enthousiasme est un outil indissociable, un porte-parole, un guide, est un indicateur. Donc à partir du moment où on a confiance, où on sait, on a la foi que ce vers quoi on va, c'est où il faut aller. Je veux dire, on écoute les indices, on a la foi en notre potentiel, en nos rêves, mais c'est l'enthousiasme qui va nous guider. Quand on se sent très enthousiaste, on sent comme une résurrection, une guidance divine qui est super positive. On apprend à l'utiliser avec notre raison. L'idée, c'est pas de délaisser notre cerveau rationnel, mais qu'on ait une raison qui est toujours nourrie par l'enthousiasme, qui reconnaît que sans ce carburant-là, on est juste un robot, une machine qui est dépourvue de son essence, de son énergie ou de son feu divin. J'ai une citation pour vous de Earl Nightingale qui dit « La créativité est une extension naturelle de notre enthousiasme. » Ensuite, j'en ai une en anglais que je vais vous traduire. On dit « Le mot enthousiasme vient du grec « entheos » qui signifie le Dieu en soi. Et les gens les plus heureux et intéressants sont les gens qui ont trouvé comment maintenir leur enthousiasme, leur Dieu en eux. Donc oui, c'est tout un exercice parce que il y a toujours un challenge, il y a toujours un défi, il y a toujours quelque chose pour nous faire douter, il y a des épreuves, il y a ce qu'on appelle des échecs qui en fait sont des occasions d'apprentissage qui sont là pour challenger notre enthousiasme. Mais il faut rester enthousiaste même devant ces épreuves-là en sachant de toute façon qu'on va apprendre de ça. Je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais c'est l'idée de cette citation-là de dire que les gens les plus heureux et intéressants sont les gens qui ont trouvé comment maintenir leur enthousiasme. Comment le garder parce qu'on sait que c'est notre feu sacré. On sait que c'est un indice indispensable de notre réussite. Et je vous en parle justement pour vous partager ça parce que je l'ai vécu moi-même d'aller et de venir de l'enthousiasme à la désillusion. Et je peux vous dire que c'est très possible d'être constructif et de rester rationnel et d'amener des projets d'une façon posée tout en étant enthousiaste. Il suffit juste de travailler ensuite cette partie-là. Si on a trop tendance à planer puis à se déconnecter, il suffit juste de nourrir la partie rationnelle, mais toujours avec, à la base, je dirais, celui qui mène, c'est l'enthousiasme. Et le rationnel est tout simplement un outil. Tout comme on dit que ce qui nous mène, c'est notre cœur et que notre cerveau est tout simplement un outil pour notre cœur. Et il ne faut pas que ce soit le contraire, mais pas du tout. Parce que le cœur, c'est l'amour pur. Donc on évite l'ego quand on est dans notre cœur, quand on est dans notre soi. Mais le cerveau, le raisonnement, l'ego, ça cherche à nous protéger, mais nous protéger d'une façon qui n'est pas nécessaire la plupart du temps. C'est la peur, en fait. L'amour qu'on ressent, par exemple, pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un projet, pour un rêve, c'est attaché à l'enthousiasme. C'est pour ça aussi qu'on dit en coaching qu'il faut absolument, en premier lieu, identifier son pourquoi. Parce que savoir exactement le pourquoi nous souhaitons réussir, pourquoi nous souhaitons obtenir ou parvenir à quelque chose, ça active l'enthousiasme. L'amour de la quête et l'objet ou l'état convoité nourrit l'enthousiasme. Sans enthousiasme naturel, il nous faut forcer notre état. Et quand on force, on n'est pas à la bonne place. Et c'est là que nous nous égarons de nous-mêmes, que nous mettons nos pieds en dehors de nos souliers. C'est une expression qui est très simple, mais qui fonctionne. On le sent quand on est nous-mêmes, on sent qu'on a nos pieds dans les bons souliers. Si on met les pieds à côté de nos souliers, on se trouve perdu. On ne sait plus quelle direction prendre. Mais l'enthousiasme est toujours là et c'est lui qui nous répond. Dans les dernières années, on entend beaucoup les dictons « Va suivre ton cœur, suis ta passion, aime-toi. » Ça a pris beaucoup d'ampleur. Ou fais ce que tu aimes. Je dirais plutôt, observe ton enthousiasme. L'enthousiasme est un état. La passion est un concept, avant tout. Chercher ce qui nous passionne nous pousse à raisonner, à réfléchir. Alors que, si vous cherchez ce que vous ressentez, quand vous ressentez ce moment où l'enthousiasme vous envahit littéralement, où il prend toute la place en vous, vous n'avez pas peur. Parce qu'il y a toute une différence entre agir sans discernement avec enthousiasme, avec ferveur, ou embrasser et utiliser sa raison comme un outil pour mettre en pratique, pour amener l'enthousiasme dans le réel. L'enthousiasme est la force de propulsion. C'est plus précieux, plus indispensable au bonheur que notre cerveau surdéveloppé, justement. Avec le temps, l'enthousiasme a été associé au fanatisme, à la fabulation, à l'utopie. Je dirais qu'il s'est fait salir. Dans toute chose, c'est important d'avoir un équilibre, d'être conscient de ses actes. Je crois en l'enthousiasme conscient, fortement. C'est un état où on s'observe s'enflammer et où on dit « go » par pure bienveillance avec soi-même, par pur amour de soi. On se dit « wow, mais quelle occasion en or d'être heureux, de se réaliser, de se dépasser ». Ça, c'est de reconnaître les besoins de notre âme et de notre être tout entier. L'âme n'a pas peur de l'enthousiasme. Elle n'a même pas peur de l'échec. L'âme, elle ne connaît pas les enjeux. Elle est simplement pur amour et lumière. Et l'amour et la lumière, ça se retient pas. Ça se contient pas. Ça se partage incessamment dans la magie, comme l'enthousiasme. Ça amplifie la connexion à soi. Alors je dis, fuyez pas l'enthousiasme de peur de vous brûler. Parce que ça revient à vous fuir vous-même et à vous infliger à vous et votre essence la plus grande lourdeur. Fuir son enthousiasme, c'est souvent le premier auto-sabotage que plusieurs d'entre nous, on a. L'enthousiasme est la porte, c'est la clé de la réalisation de soi. Nous devons embrasser l'enthousiasme et ensuite identifier toutes les ressources à notre portée pour réussir, pour parvenir à réaliser un projet. C'est là que le sang-froid doit arriver. Mais avant, il faut nourrir l'enthousiasme. Jamais l'esprit rationnel doit servir à mesurer la légitimité, l'enthousiasme ou d'un rêve. Le rêve, c'est ce qui nourrit, c'est ce qui fait vibrer, c'est ce qui anime. Et on ne veut pas être mort. On veut ressentir la vie à son plein potentiel. C'est pour ça qu'on est là. On veut utiliser la raison comme le meilleur des outils pour y parvenir. C'est tout un équilibre en harmonie pour voir fleurir la réalisation de soi. La fierté d'avoir accueilli tout l'enthousiasme qui nous fait dormir sur nos deux oreilles. Quand on est fier le soir d'avoir saisi les opportunités, d'avoir été pleinement vulnérable dans notre joie, dans notre enthousiasme. C'est là qu'on dort bien, qu'on a le cœur chaud, qu'on émane la gratitude. De pouvoir juste s'accorder le droit de réaliser nos désirs les plus fous. La gratitude de s'aimer enfin, de s'accueillir et de s'offrir ce qu'on mérite. Je vous parle pas de ça pour rien, là, parce que je suis là-dedans. Parce que j'ai accepté cette semaine d'embrasser mon enthousiasme, comme je vous disais tantôt. J'avais la chienne complètement. Et je vous parlerai de la raison de tout ça dans le futur, c'est certain. Mais je suis en train de vivre quelque chose de très grand de mon côté, puis mon enthousiasme m'a fait peur. Parce que oui, l'ego veut nous protéger. Parce qu'on a un réflexe de stagnation qui a comme but de nous protéger. C'est cette fameuse zone de confort qu'on appelle. Donc, qu'on aille vers quelque chose de positif ou vers quelque chose de négatif, on sort de notre zone de confort et notre ego, ou notre peur, ou nos blessures même, essaient de nous protéger. Il y a un moment où il faut dire « Ok, j'ai compris ». Je dis merci à tout ça, je tire la leçon et je garde mon esprit clair et ouvert et j'accepte de me lancer dans l'enthousiasme et c'est ce que j'ai fait cette semaine et je me sens tellement en paix, il n'y a plus de guerre à l'intérieur de moi, il n'y a plus d'anxiété. On dit que l'anxiété, c'est des émotions qui sortent pas, qui sont accumulées. Donc, ressentir un enthousiasme si fort, mais le réfréner, par habitude souvent, encore plus que par peur. C'est l'habitude d'avoir peur, ou l'habitude de se protéger, ou l'habitude d'échouer. Donc de réfréner ça, ça fait naître une anxiété énorme, et j'avais le cœur qui étouffait. Et si j'accepte mon enthousiasme, si je le laisse émaner, mon cœur émane plus que jamais, et on le voit, ça peut être pour n'importe quoi cet enthousiasme-là. Quand j'étais jeune, les gens qui m'accrochaient le plus, j'étais enfant ou adolescente. Et je me rappelle la bouffée d'air que j'avais quand je voyais quelqu'un d'enthousiaste passer par là. Mais quelqu'un qui était groundé, quelqu'un qui rayonnait, qui peut-être aux yeux de mes parents avait l'air d'un tata naïf. Mais pour moi, je voyais bien que cette personne-là était très intelligente et qu'elle avait juste fait le choix d'être heureuse et de donner de l'amour et de donner de la joie et de l'espoir à tout le monde. Donc c'est des gens qui sont porteurs, qui sont des militants de l'enthousiasme. On a le droit d'être ça, t'sais. Et c'est ce que je suis en train d'accepter pour moi-même, puis de je pense que j'ai assez fait mes preuves au niveau rationnel, au niveau de mon intelligence. J'ai déjà parlé de la douance dans l'épisode 5. Je pense que j'ai assez montré mes capacités intellectuelles. Maintenant, je veux montrer à quel point être enthousiaste et utiliser notre intellect comme un outil à l'enthousiasme, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat incroyable. Je suis allée vous chercher des citations qui m'ont parlé beaucoup. Donc on dit « L'enthousiasme est l'un des moteurs les plus puissants du succès. Quoi que vous fassiez, faites-le avec toute votre puissance. Mettez-y votre âme entière. Marquez-le du sceau de votre propre personnalité. Soyez actif, soyez énergique, soyez enthousiaste et loyal, et vous atteindrez votre objectif. Rien de grand n'a jamais été atteint sans enthousiasme. » C'est une citation de Emerson, qu'on connaît, qui était un poète. J'en ai une de Paulo Coelho. « Nous savons que nous approchons de notre vraie mission sur Terre quand l'énergie de l'enthousiasme se transmet à tout ce que nous faisons. Si elle est là, tout va bien. Si elle n'est pas là, mieux vaut changer tout de suite de direction. » C'est Paulo Coelho encore, je répète. Et en fait, parfois, le changement de direction, c'est pas nécessairement au niveau de ce qu'on fait. Oui, à la longue, on va finir par se dire peut-être que ce métier-là ou peu importe cette ville-là dans laquelle je vis ou cette relation amicale ou amoureuse fonctionne pas, mais ça peut être juste au niveau de votre façon d'être, de votre perception. Si je prends mon exemple, en fait, j'ai cru pendant longtemps que je devais déménager parce que j'étais pas au bon endroit et j'ai fait ça très souvent. Donc, j'ai vécu à Rivière-du-Loup, ensuite j'ai vécu à Montréal, ensuite je suis revenue à Rivière-du-Loup, je suis retournée à Montréal, puis je suis retournée, en fait, je suis allée pour la première fois vivre au Témiscouata où je suis en ce moment. Et ça fait 4 ans que je suis au Témiscouata, même 4 ans et demi. Et à plusieurs reprises, j'ai eu envie de partir, mais pour une fois, parce que j'ai un enfant et que c'était plus difficile de juste partir comme ça. J'avais plus de biens matériels aussi à déplacer avec moi. Avant, j'avais presque juste un sac à dos. Et comme j'ai un enfant, justement, que je ne veux pas déraciner sans raison profonde, je me suis aperçue que mes changements, en fait, c'était plus une fuite. C'était plus pour éviter de voir les petits bobos à l'intérieur. Et dans ces 4 années-là, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses et encore plus dans la dernière année où j'ai fait, dans les 2 dernières années même, où j'ai fait un travail très précis à l'intérieur de moi-même. Et la dernière année, depuis, je vous dirais, octobre dernier, qui a été un peu l'apogée de ce travail-là, j'ai l'impression d'arriver à une belle délivrance. Mais ce changement de direction-là, dans le fond, pour trouver l'enthousiasme, je l'ai fait à l'intérieur de moi. C'est mon regard que j'ai changé. Donc, parfois, c'est juste ça. J'ai changé mon regard sur moi-même, sur ma valeur, sur mon amour personnel et sur pas ma capacité à être aimée, mais vous comprenez. Et j'ai aussi changé mon regard sur les autres. Et beaucoup par rapport à la douance, quand j'ai découvert que j'étais surdouée, ça m'a permis de faire la paix avec tellement de blessures, avec tellement d'incompréhension, d'avoir l'impression d'être une martienne à travers les gens. Et maintenant, tout ce que je vois, c'est que je peux utiliser ma différence plutôt que d'en souffrir. Je peux l'utiliser pour aimer les gens au lieu de les trouver agressants ou de trouver qu'ils manquent de logique ou d'être dans le jugement finalement. Donc, on laisse tomber le jugement. Puis là, j'ai changé de direction, mais dans ma tête, dans ma vision, pour retrouver mon enthousiasme, pour retrouver ma joie de vivre par rapport aux autres, mon ouverture, cette chaleur humaine. Donc, je vais passer à une autre citation qui est de Voltaire. On dit « L'enthousiasme est une maladie contagieuse. » Alors, c'est comme quand je vous disais que je croisais des gens quand j'étais petite et que ces gens-là m'inspiraient, puis même plus que m'inspiraient, m'échangeaient automatiquement ma vibration. Donc, admettons que vous êtes dans une journée où vous vous sentez maussade et vous vous êtes chicané, ou peu importe, vous doutez de quelque chose, vous doutez de vos capacités. Finalement, vous n'êtes pas dans un bon mood, comme on dirait. Et vous croisez quelqu'un qui vous fait juste un immense sourire. Vous allez prendre un café, vous commandez un café, vous croisez quelqu'un qui vous fait juste un immense sourire, qui vous souhaite bonne journée. Et hop, tout à coup, vous avez changé d'état. Parce que la chaleur, la joie, l'enthousiasme de la personne vous a contaminé d'une très belle façon. Alors, c'est encore une autre raison d'être enthousiaste pour l'offrir aux autres. Que je vais aller avec une autre citation qui est de Paul Éluard qui disait « Il n'y a pas d'enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité. » Donc là encore, quand on parle de sagesse, en fait, on fait référence à la connaissance, à l'apprentissage et aussi à cet esprit rationnel qui est là pour nous aider, dans le fond, pour nous surveiller. C'est aussi comme notre parent, un peu. Donc, cette citation dit qu'il n'y a pas d'enthousiasme sans sagesse. Bien sûr, l'enthousiasme existe sans sagesse et c'est là qu'il est dangereux peut-être, mais c'est une façon justement de le tourner d'une façon positive, de dire que l'enthousiasme est indissociable de la sagesse pour être productif ou beau, pour engendrer des belles choses. Donc, ensuite, on dit qu'il n'y a pas de sagesse non plus sans la générosité. Donc, ça ne sert à rien d'être sage si c'est pour le garder pour soi. Ensuite, Honoré de Balzac a dit « L'homme meurt une première fois à l'âge où il perd l'enthousiasme. » Alors, ça nous ramène à cette importance de nourrir ça. Henry Ford qui a dit « L'enthousiasme est à la base de tout progrès. » Henry Ford, je vous rappelle qu'il a fondé la fameuse compagnie automobile Ford. Donc, on parle de quelqu'un qui avait compris comment fonctionnait le succès. Une autre de Condorcet que je ne connais pas, qui dit « Conservons par la sagesse ce que nous avons acquis par l'enthousiasme. » Ça fait écho à la citation de Paul Éluard au niveau de la sagesse et de l'enthousiasme. George Sand qui a dit « L'amour, c'est l'amitié portée jusqu'à l'enthousiasme. » Donc là, on est dans un autre ordre d'idées. Et on voit que quand on s'enflamme pour quelqu'un, c'est qu'on accepte aussi notre enthousiasme. On le pousse jusqu'à rêver, jusqu'à croire qu'on peut faire quelque chose d'extraordinaire avec cette personne-là. Donc, c'est pas seulement juste en amour romantique, ça peut être des grandes amitiés aussi. Winston Churchill qui a dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Donc, ça ne veut pas dire qu'on va toujours d'échec en échec. Je crois qu'à un certain moment, on réussit. Vous comprenez très bien le principe, c'est de réussir à nourrir encore notre enthousiasme malgré les difficultés. Rivarol a dit « Le talent est un art mêlé d'enthousiasme. S'il n'était qu'art, il serait froid. S'il n'était qu'enthousiasme, il serait déréglé. » Donc, ça prend aussi autre chose pour tenir l'enthousiasme. Paulo Coelho encore a dit « L'enthousiasme se manifeste normalement de toute sa puissance pendant les premières années de notre vie. » Et c'est pour ça qu'on dit que quand on est enthousiaste, on est connecté à notre enfant intérieur, qu'on est comme des gamins. Ces temps-ci, je me sens beaucoup comme une gamine, mais une grande gamine sage. Ensuite, il suffit d'aller choisir les petits moments où on est complètement enfantin et les petits moments où on a besoin d'être plus posé. Et on regarde les enfants et ils ne sont qu'enthousiasme. Mon fils, il passe d'un truc à l'autre. Il est comme une balle, comme un petit feu plein de joie. Les enfants, ils sont loin d'avoir perdu cette énergie-là. Et c'est tellement beau. C'est souvent ce qui nous nourrit nous-mêmes. Quand on devient parent, on redécouvre cet enthousiasme-là quand on joue avec nos enfants pour dire à quel point c'est précieux. Il y a Stendhal qui a dit « Pourquoi parler? » Pourquoi se mettre en communication avec cet été noir de tout enthousiasme et de toute sensibilité qu'on appelle les autres? Donc, c'est très intense comme citation et bien sûr, je vais vous en parler. C'est justement ce que nous travaillons à changer en ce moment. Pourquoi je vous fais cet épisode-là? Nous pouvons décider que nous souhaitons vivre un enthousiasme radical et pas dans le sens de changement de dangereusement extrême. Mais dans le sens où, plutôt que de demander une validation à notre enthousiasme, nous l'offrons en cadeau aux gens, avec joie. Moi, j'ai pas besoin de demander à ma mère s'il est d'accord avec le fait qu'en ce moment, je me sens comme un enfant puis que je capote et que je rêve énormément. J'ai pas besoin de lui demander si j'ai raison d'être enthousiaste en ce moment. Vous comprenez que ça peut être vraiment un beau cadeau à donner aux gens. Parce que encore, cette énergie de fraîcheur qu'on ressent quand on croise des gens qui rayonnent. Une personne qui est pleine de foi, qui est pleine d'amour. Je dis encore, devenons militants de l'enthousiasme. Soyons fiers de ne plus en douter ou d'en douter seulement au moment opportun dans une perspective de bienveillance encore. Une autre citation de Baudelaire pour la fin. Je comprends pas pourquoi l'homme se sert de moyens artificiels pour arriver à la béatitude poétique. Puisque l'enthousiasme et la volonté suffisent à l'élever à une existence supranaturelle. Donc, cette citation mérite aussi d'être un peu décortiquée. Donc, on dit que ça sert à rien d'essayer de trouver, ne serait-ce que quand on parle de moyens artificiels, mais d'essayer de se trouver des stimuli, des drogues, peu importe, ou juste des dépendances pour se sentir bien, fort, grand, vivant, lumineux, connecté à Dieu, justement, ou à l'univers, ou à la magie, parce que Dieu et magie, on s'entend que c'est quand même synonyme, tout ce qui est beau, tout ce qui nous fait triper, mais tout ce qui est constructif aussi. Alors, les moyens artificiels, c'est pas des choses qui sont constructives, qui sont réelles, alors que la volonté, l'enthousiasme, ce sont des choses qui vont nous amener à grandir, à être tellement plus, à se dépasser, à apprendre, à expérimenter. C'est tellement des beaux indices, c'est tellement des belles réponses pour savoir vers où aller. Je souhaite terminer l'épisode en vous partageant un texte que j'ai écrit à l'été 2015, donc ça fait déjà 2 ans et demi, même un peu plus, et qui était dans une période où j'étais très inspirée à être authentique et à cesser d'essayer d'être quelqu'un d'autre et aussi à cesser d'essayer de correspondre à une société et à un mode de fonctionnement qui, je crois, n'est pas le mien. Et n'est pas celui de plusieurs d'entre nous. Je pense pas qu'on soit là nécessairement pour travailler toute la semaine de 8 à 4 ou de 8 à 5 ou de 9 à 5, peu importe, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça à la vie et que la sécurité financière et la liberté, on peut l'avoir de bien d'autres façons et que ce mode de fonctionnement-là commun, c'est pas, mais pas du tout le mode de fonctionnement optimal. Alors, bon, j'avais fait des belles rencontres pendant l'été qui m'avaient confirmé un peu cet état-là et je commençais à m'assumer pas mal, donc j'avais écrit deux textes, en fait, que je vais vous lire. Alors, ça va comme suit. Y a-t-il une loi de la nature qui impose toutes ses réserves, toutes ses retenues? Non. Autre que la loi des hommes et de leurs craintes. Rien ne justifie de vivre bas, d'être craintif, de se cacher, de se peindre pour se camoufler, s'éteindre, changer de voix et de voix, d'allure et d'aspiration. Rien, autre que la loi des hommes, n'empêche la vie d'être ce qu'elle est, ce qu'elle désire, ce que son essence et ses élans la portent à incarner. Rien ne dicte à la vie ce qu'elle est. La vie s'épanouit partout, sans que l'humain ne le désire. La vie existe sans lui. Elle a ses propres lois qui nous échappent beaucoup. La vie pousse où elle le veut et ne saurait s'assujettir à quelconque crainte. La vie ne craint pas le plus monstrueux des hommes, le plus encarcané. La vie passe à travers, à côté, partout. Même s'il la blesse, même s'il l'écorche, même s'il la creuse, laissant son sol béant, son sol à nu, avec ses mines, ses forêts rases, ses bêtes abattues. La vie, malgré tout, poursuit son chemin, sans amertume. Avec ses blessures, la vie n'arrêtera jamais. Et le plus insensible des hommes ne peut rien y faire. La loi des hommes est sans pitié. Il n'y connaît pas l'amour, ou si peu. Mais rien ne force, et certainement pas la vie, à la suivre. Des êtres grands osent, sans cesse le dire. Plusieurs en souffrent d'une façon inimaginable. D'autres ont la chance de pouvoir parler et dire tout ce qu'ils veulent sans être bâillonnés. Tout dépend d'où la vie nous a fait pousser. En chacun qui le désire, tout élan devrait être entendu. Pour remplir nos cœurs de sincères paroles, de gestes complets, de présence et de douceur. La sagesse et la vérité existeront toujours. Ils ont besoin de porteurs, du plus grand nombre possible, d'êtres prêts à exister en l'honneur de la vie et de quitter toute forme d'asservissement. On ne doit offrir notre temps, notre présence, notre attention que pleinement, avec l'intention d'être entier, en un instant précis. C'est ainsi que plusieurs pourront guérir des malheurs qu'ils portent. Août 2015. Le deuxième texte. Je veux léguer à mon fils un monde authentique et audacieux. Je veux qu'il grandisse dans une communauté où les adultes parlent vrai et où tous n'ont pas peur de partager leurs rêves. Je souhaite qu'il soit fort devant l'hypocrisie et qu'il n'en perde pas son visage, qu'il ose rire quand tous sont trop sérieux et qu'il ait la bonté de ne pas juger ceux qui en arrachent. Mais il n'a aujourd'hui que 10 mois et je l'aimerai autant s'il se laisse prendre, lui aussi, à toutes ces difficultés que l'on traverse chaque jour. Mais je veux être là pour l'aider. Je veux lui léguer cette histoire. Je veux qu'il grandisse en sachant qu'il a le choix. Et que, surtout, la vie ne pèse pas. En aucun cas. La vie oubliera toujours et passera à autre chose. Elle progressera toujours. Malgré les plus grandes erreurs, les hontes, les regrets, la vie s'en fout. Elle avance. Je veux lui apprendre à avancer, à être fier à tout moment, à écouter et à être confiant, à partager et à aimer, à toujours aimer sans retenue, à offrir, à dire, à nommer ce qu'il voit, ce qu'il sait. Je veux qu'il devienne un activiste et pour cela, je veux être moi-même militante. Je veux qu'il me voie agir toujours pour le plus grand, la plus grande douceur et la compréhension. pour la beauté. Alors, c'est mon épisode sur l'enthousiasme. Je sais que j'étais assez éprise et enthousiaste de ce sujet. J'avais envie surtout de dépasser ce que je me faisais dire personnellement et que plein d'amis se faisaient dire au primaire ou au secondaire quand on était petit, que finalement nos rêves n'avaient pas lieu d'être parce qu'ils étaient trop grands. Ben, la seule façon de riposter, de faire survivre cette énergie-là qui était très positive, c'est par l'enthousiasme. Donc, de jamais laisser notre enthousiasme s'éteindre parce que on devient des êtres de souffrance à ce moment-là, purement. Pour moi, l'enthousiasme, c'est complètement sacré. Et comme je dis, il faut pas que ça devienne déconnecté. On apprend, on s'assagit. Au début, on peut faire des erreurs par enthousiasme. Mais en grandissant, avec la sagesse, on finit par comprendre qu'il faut juste modérer un petit peu, mais qu'il faut laisser couler l'enthousiasme parce que c'est ce qui nous anime. Ça nous rajeunit, ça nous nourrit, ça nous purifie, peu importe. Il y a tellement de choses. Mais c'est important parce que sinon, on n'osera même plus faire des projets, on n'osera plus rêver. Moi, j'étais complètement blasée, je l'ai été souvent. Mais chaque fois que je m'accorde le droit d'aller vers la gratitude, vers l'enthousiasme, vers la joie, la chaleur humaine, l'amour. L'amour général, je veux dire. D'être enthousiaste d'aller à un spectacle où il y a des amis, avec juste d'être enthousiaste de partager des réflexions, d'avoir des belles conversations, de donner un câlin à un ami. On est vivant à ce moment-là. On est pleinement dans le moment présent, en train de rayonner, de vibrer fort. Donc, j'espère que tout ce que je vous ai lancé comme ça avec ferveur, j'espère que ça vous allume un petit peu. Puis, si vous avez des réflexions, quoi que ce soit par rapport à cet épisode-là, à l'enthousiasme, comment vous vivez l'enthousiasme? Est-ce que vous le vivez sainement ou est-ce que vous avez appris justement à le réfréner comme les parents ou d'autres milieux d'éducation ont pu l'apprendre? Que vous vous êtes fait dire que vous rêviez trop ou que vous n'étiez pas réaliste quand vous étiez jeune? Ou est-ce qu'au contraire, vos parents vous ont nourri, ont nourri votre enthousiasme, vous ont dit que c'était quelque chose d'absolument magnifique? Est-ce que quand vous êtes enthousiaste, vous recevez la peur des autres qui veulent vous protéger, qui trouvent que vous êtes trop extrême ou qui ont juste peur que vous vous pétiez la gueule? Ou est-ce que les gens vous disent « Wow, mais tu rayonnes en ce moment. » Donc, tout ce qui vous vient en tête, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, n'hésitez pas, il y a la page Facebook de La Chamane qui est là pour ça. Donc, bientôt, on a une communauté aussi que je veux faire naître autour du podcast et de développement personnel et de la spiritualité. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent et je suis très heureuse d'avoir fait cet épisode-là sur ce mot. Ce concept et cet état, surtout, que j'adore. Donc, je souhaite une excellente journée. Merci d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine. Bye!